Paul à Corinthe. Plusieurs personnes avaient été converties au Seigneur et une assemblée avait certainement été formée à Athènes. De cette ville, Paul se rendit à Corinthe. C'était aussi une des principales cités grecques, célèbre par son commerce, ses richesses et sa culture intellectuelle, mais surtout par le luxe de ses habitants, leur amour des plaisirs et la dépravation de leurs mœurs entretenues par le culte de divinités impures. C'était vraiment une forteresse de Satan qui y tenait les âmes enchaînées par les convoitises charnelles et par les faux raisonnements de la sagesse humaine. Paul se trouvait donc là dans un milieu qui avait bien besoin de l'Évangile, lequel est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. En même temps, la tâche placée devant lui était particulièrement difficile, mais le Seigneur est suffisant pour tout, et Paul en fit l'expérience. Suivant sa coutume, l'apôtre rechercha d'abord ses compatriotes juifs. Parmi eux, il en trouva un nommé Aquilas. Comme nous le trouvons plusieurs fois mentionné ainsi que Priscilla, sa femme, dans les Actes et dans les Épîtres de Paul, nous dirons d'eux quelques mots. Tandis que les hommes conservent dans leurs histoires les noms de leurs héros et de leurs conquérants fameux, Dieu enregistre dans son livre les noms de ses serviteurs, bien humbles et chétifs devant le monde, mais grands et précieux à ses yeux. Tels étaient Aquilas et Priscilla. Aquilas était originaire de la province du Pont en Asie mineure, mais ainsi que beaucoup d'autres juifs, il habitait Rome, la grande ville impériale. Il était fabricant de tentes, objets nécessaires pour les armées en campagne et les voyageurs de ces temps. Des troubles ayant été suscités à Rome par les Juifs, l'empereur Claude expulsa de la ville tous les gens de cette nation, et c'est ainsi qu'Aquilas et Priscilla furent conduits à Corinthe, où ils continuèrent à exercer leur profession. Nous avons déjà vu que Paul avait appris ce même métier. C'est en l'exerçant qu'il pourvoyait à ses besoins, et même à ceux de ses compagnons, afin de n'être à charge à personne. Ayant fait la connaissance d'Aquilas et de Priscilla, il vint demeurer dans leur maison et travaillait avec eux. La parole de Dieu ne nous dit pas quand et par quels moyens Aquilas et Priscilla furent convertis. Peut-être fût-ce par le ministère de Paul à Corinthe. En tout cas, nous ne pouvons douter que, dans la société de l'apôtre, il n'ait fait des progrès dans la grâce et la connaissance du Seigneur, de manière à pouvoir instruire les autres, comme nous le verrons, et à être des compagnons d'œuvre de Paul. Ils devinrent ses amis dévoués jusqu'à la mort. L'apôtre, à la fin de son épître aux Romains, parle d'eux en ces termes, « Saluez Prisca ou Priscilla et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, qui, pour ma vie, ont exposé leur propre coup, auquel je ne rends pas grâce moi seul, mais aussi toutes les assemblées des nations, et saluer l'assemblée qui se réunit dans leur maison. » Nous voyons par là qu'ils étaient retournés à Rome peu d'années après en être sortis. En effet, après que Paul fut demeuré avec eux à Corinthe un an et demi, ils partirent ensemble et l'accompagnèrent à Éphèse, où ils restèrent plus de 2 ans, et d'où, sans doute, ils se rendirent à Rome. Ce fut peut-être à Éphèse où Paul courut un grand danger, dans le grand trouble survenu à l'occasion des disciples du Seigneur, et dont nous parlerons, qu'Aquilas et Priscilla exposèrent leur vie pour lui. Remarquons encore un autre trait. Nous trouvons, soit dans l'Épître aux Romains, soit dans celle aux Corinthiens, que l'assemblée se réunissait à Rome et à Éphèse, dans la maison d'Aquilas et de Priscilla. Romains 16, verset 5.
Et l'assemblée qui se réunit dans leur maison.
1 Corinthiens 16, 19.
Les assemblées de l'Asie vous saluent, Aquilas et Priscilla, avec l'assemblée qui se réunit dans leur maison, vous saluent affectueusement.
On n'avait pas alors pour se rassembler des édifices plus ou moins vastes, plus ou moins splendidement ornés, non. C'était dans des chambres hautes, dans l'humble demeure d'un obscur artisan chrétien comme Aquilas, ou chez un Philémon probablement plus riche, que les saints des premiers temps se réunissaient pour s'édifier et rendre culte à Dieu. Acte 20, verset 8.
Or il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés.
Philémon 2.
Et à la sœur Aphie et à Archip, notre compagnon d'armes, et à l'assemblée qui s'est réunie dans ta maison.
Colossiens 4, 15.
Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'assemblée qui se réunit dans sa maison.
Quel privilège et quelle bénédiction pour ceux qui ouvraient ainsi leur maison à l'assemblée, peut-être au péril de leur vie. Plus tard, ces deux fidèles serviteurs revinrent à Éphèse, comme nous le voyons dans la seconde épître de Paul à son cher fils Timothée. De Timothée 4, 19.
Salut Prisca et Aquila et la maison d'Onésiphore.
Voilà tout ce que nous savons de Priscilla et d'Aquilas. Ils continuèrent leur humble course, travaillant pour le Seigneur. Comment se termina leur vie ici-bas, nous l'ignorons. Mais ils sont auprès de Jésus avec leur ami Paul, attendant, comme lui, la venue du Seigneur et la couronne de justice, réservée à tous ceux qui aiment son apparition. Quelle heureuse vie et quelle heureuse fin que celle des serviteurs dévoués du Seigneur Jésus. Reprenons maintenant l'histoire des travaux de Paul à Corinthe. Il s'occupait donc de ses mains à faire des tentes, et nous aurions pu voir ce grand apôtre, ce serviteur éminent du Seigneur, travaillant comme un obscur ouvrier dans l'atelier d'Aquilas. Il n'en avait pas honte, au contraire. Son Seigneur n'avait-il pas vécu dans la pauvreté? N'avait-il pas été le fils du charpentier, charpentier lui-même, comme nous pouvons le lire dans les Évangiles? Matthieu 13, verset 55.
Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques et José et Simon et Jude?
Marc 6, verset 3.
Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques et de José et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous?
Mais quand le jour du sabbat arrivait, Paul, le faiseur de tentes, se rendait dans la synagogue et y parlait de l'Évangile, persuadant tant les Juifs que les Grecs. Bientôt arrivèrent ses deux fidèles compagnons de labeur, Silas et Timothée, qui jusqu'alors étaient restés en Macédoine. Paul fut tout encouragé par leur venue et les bonnes nouvelles que Timothée lui apporta de la foi et de la persévérance des chrétiens de Thessalonique au milieu des persécutions. Et il se mit à annoncer l'Évangile avec plus de zèle encore. La puissance et la vérité de la parole remplissaient son cœur. Il aurait voulu faire partager aux Juifs sa foi, et, appuyé sur les Écritures, il leur rendait témoignage que Jésus était le Christ. Mais, hélas, là comme ailleurs, ces malheureux Juifs ne voulaient pas de l'heureux message qui leur annonçait l'accomplissement en Christ de ce que les prophètes avaient prédit, et il refusait les bénédictions célestes qu'il est venu apporter. Incrédules à la parole de Dieu et au témoignage de Paul, ils s'opposaient à lui et blasphémaient Christ. Alors l'apôtre secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang soit sur votre tête, moi je suis net. Désormais je m'en irai vers les nations. » Déclaration solennelle et terrible. En secouant ses vêtements, l'apôtre montrait qu'il n'avait plus rien de commun avec eux, et en leur disant « Que votre sang soit sur votre tête », il rejetait entièrement sur eux la responsabilité de leur ruine et de leur perdition à laquelle ils s'exposaient. Quelle chose sérieuse de ne pas recevoir la parole de Dieu ou de s'y opposer. Aucun de ceux qui périssent par l'incrédulité ne peut accuser d'autre que lui-même de son sort. Joignant l'action à la parole, Paul sortit de la synagogue et, pour montrer qu'il rompait avec la masse des Juifs incrédules, il se rendit chez un nommé Juste. Ce n'était pas un Juif, mais un prosélyte d'entre les nations, comme l'indique l'expression qui servait Dieu. La maison de Juste touchait à la synagogue, de sorte que si quelqu'un des Juifs qui s'y rendait avait le cœur touché et voulait suivre Paul, il n'avait qu'à entrer chez Juste. Il rendait ainsi témoignage ouvertement qu'il désapprouvait les autres Juifs. Mais il faut de la décision de cœur pour renoncer à la religion du monde et suivre Dieu. Le travail de l'apôtre au milieu des Juifs ne fut cependant pas vain. Le chef de synagogue même, nommé Crispus, crut au Seigneur avec toute sa maison. D'autres Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi. Les uns et les autres furent ainsi introduits dans l'assemblée chrétienne. outre celui de Crispus, les noms de plusieurs de ces chrétiens de Corinthe nous ont été conservés, entre autres Gaius, chez qui l'assemblée, une fois formée, se réunissait, et Stéphanas, que Paul lui-même avait baptisé avec toute sa maison, comme il l'avait fait aussi de Crispus et de Gaius. Romains 16, verset 23.
Gaius, mon hôte et celui de toute l'assemblée, vous salue.
1 Corinthiens 1, verset 14 à 16.
Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé pour mon nom. J'ai bien aussi baptisé la maison de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre.
L'apôtre écrivait aux Corinthiens à propos de Stéphanas. Vous connaissez la maison de Stéphanas, qu'elle est les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont voués au service des saints. 1 Corinthiens 16, verset 15. Quel bel éloge! Heureux ceux qui marchent sur les traces de Stéphanas et de sa maison. Aussi Paul recommande-t-il à l'assemblée de reconnaître de tels hommes. L'apôtre ne se contentait pas de ce fruit de ses travaux, bien que son cœur en fût réjoui. Il avait dit, et c'était sa mission, « Désormais je m'en irai vers les nations », et il prêchait aux Grecs. Mais là, s'il ne rencontrait pas l'incrédulité juive, il trouvait les raisonnements des faux sages de ce monde, l'éloquence séduisante et subtile des rhéteurs, et l'horrible corruption du paganisme. On comprend qu'il sentit sa faiblesse, lui, pauvre faiseur de tentes, d'une nation méprisée, lui qui n'avait pas la parole facile et dont l'extérieur ne présentait rien d'attrayant. Que faire en présence de ces philosophes raisonneurs, de ces moqueurs élégants, de ces matérialistes plongés dans les plaisirs? Il décrit dans son épître ce qu'il ressentait devant cette tâche difficile. « J'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand tremblement, dit-il. » 1 Corinthiens 2, versets 3 et 4. Mais le Seigneur savait tout cela, il connaissait le tremblement du cœur de Paul. Aussi vint-il lui-même encourager son serviteur. Il lui dit, la nuit, dans une vision, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Paul éprouva alors ce qu'il dit lui-même, « Quand je suis faible, alors je suis fort, parce que le Seigneur le fortifiait. » Soutenu par la certitude divine que le Seigneur était avec lui, et que son travail serait abondamment béni pour manifester ce qui appartenait au Seigneur dans cette grande ville, Paul se mit à l'œuvre avec zèle, et, durant un an et demi, il y enseigna la parole de Dieu. Quel était donc le sujet de sa prédication, et quels moyens employait-il? Il nous l'apprend dans les lettres que, plus tard, il écrivit à l'assemblée de Dieu qui s'était formée à Corinthe, à ceux qu'il appelle les sanctifiés dans le Christ Jésus. « Nous prêchons Christ crucifié, dit-il, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Je vous ai communiqué avant toute chose, dit-il encore, ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » 1 Corinthiens 1, verset 2, 23, 24 et 15, versets 3 et 4. En même temps, l'évangile que Paul annonçait aux Corinthiens était celui de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 4. C'est-à-dire qu'après leur avoir fait connaître un Sauveur cloué à la croix et mort pour expier les péchés, puis ressuscité par la puissance de Dieu, en preuve que Dieu avait accepté son sacrifice, il montrait ce Jésus comme Seigneur dans la gloire où il est notre garant devant Dieu. Et c'est aussi l'évangile qui nous est annoncé, le seul évangile qui, reçu dans le cœur, sauve le pécheur. C'est, disait Paul, le seul fondement qui puisse être posé, savoir Christ. Mais quels moyens l'apôtre employait-il pour convaincre les Juifs qui traitaient la croix de scandale, qui s'offensaient qu'on leur présentât comme le Messie un homme crucifié, et pour persuader les Grecs pour qui cette même croix était une folie? Était-il riche? Non. Il travaillait de ses mains. Avait-il une haute position? Non. C'était un ouvrier faiseur de tentes. Était-il donc bien éloquent? Avait-il un beau langage qui entraînait ses auditeurs? Non. Il dit, « Je ne suis pas allé auprès de vous avec excellence de parole ou de sagesse. J'ai été parmi vous dans la faiblesse. Ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. » L'apôtre présentait simplement la parole de Dieu, et l'Esprit Saint qui l'animait donnait à cette parole une puissance qui pénétrait et convainquait les cœurs. Ce sont là aussi des moyens que Dieu emploie maintenant pour convertir les pécheurs. Le résultat de la prédication de Paul à Corinthe fut grand. Il s'y forma une assemblée nombreuse, mais ce ne fut pas parmi les sages et les grands du monde. L'apôtre leur écrivait, « Frères, il n'y a pas, parmi vous, beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Non, aux yeux du monde, c'était des faibles, des petits, des méprisés, mais riches en Dieu. Ils avaient cru au Seigneur, et eux, autrefois de grands pécheurs, ils avaient été lavés de leurs péchés, sanctifiés, justifiés, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. C'est là une richesse plus grande et un titre plus glorieux que tout ce que la terre peut donner. Christ leur avait été fait de la part de Dieu sagesse et justice et sainteté et rédemption, et le Saint-Esprit demeurait en eux. Quel plus précieux trésor y a-t-il que cela ? Paul leur écrivait aussi que la grâce de Dieu leur avait été donnée dans le Christ Jésus, et en toutes choses ils étaient enrichis en lui en toute parole et connaissance. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse, en vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 26.
Car considérez votre appel, frère, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles.
1 Corinthiens 6, versets 9 à 11.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu et justice et sainteté et rédemption.
1 Corinthiens 1, verset 5.
En toutes choses, vous avez été enrichis en lui en toute parole et toute connaissance. Tels étaient les saints de Corinthe. Le travail de Paul, pendant les 18 mois qu'il avait passé dans cette ville, avait porté un beau fruit. Le même évangile est annoncé maintenant et porte les mêmes fruits là où il est reçu. Puisse chacun de nous avoir Christ pour sagesse, pour justice, pour sainteté et pour rédemption.
Mais tandis que Paul annonçait l'évangile, que les âmes croyaient et étaient sauvées, et que l'assemblée s'accroissait, l'ennemi veillait, et bientôt il s'efforça, là comme ailleurs, d'entraver l'œuvre du serviteur de Dieu. Les Juifs furent encore les instruments dont il se servit. Il y avait alors, comme gouverneur romain sur la province d'Achaïe, dont Corinthe était la ville principale, un proconsul du nom de Gallion. C'était un homme lettré, d'un caractère doux, et frère du célèbre philosophe Sénèque, dont les écrits de morale existent encore. Les Juifs incrédules, toujours remplis de haine contre le nom de Jésus et contre son fidèle serviteur Paul, se saisirent de ce dernier et le traînèrent devant le tribunal du proconsul. Ils ne l'accusèrent pas cette fois en prétendant que Paul s'élevait contre l'autorité romaine, mais, comme leur religion était reconnue par les Romains, ils dirent au proconsul « Cet homme persuade aux hommes de servir Dieu contrairement à la loi. » Les Romains avaient des lois très sévères contre ceux qui introduisaient de nouvelles religions, et les Juifs espéraient que Paul serait condamné à cause de cela. Mais ici leur haine les servit mal. Gallion était un incrédule, plus exactement, un de ces hommes auxquels les choses de Dieu sont complètement indifférentes. Pour lui, c'était des questions de parole et de nom. Il était établi, dit-il, pour rendre la justice quand il s'agissait de crimes et de délits, mais non pour trancher des questions religieuses. Et en cela, il avait raison. Paul aurait voulu ouvrir la bouche, non pour se défendre sans doute, mais afin de profiter de l'occasion pour annoncer l'Évangile. Mais le proconsul, après avoir déclaré qu'il ne voulait pas être juge de ces choses, les renvoya tous avec mépris. Partout, les Juifs étaient détestés des païens comme un peuple qui affectait de se tenir à part des autres. Les Juifs avaient raison de ne pas se mêler aux mauvaises pratiques du paganisme, mais tout en se séparant avec dédain des païens, leur vie morale témoignait contre eux, comme Paul le leur reproche dans son épître aux Romains. Ils se vantaient de connaître Dieu et de posséder sa loi, et ils transgressaient cette loi et déshonoraient Dieu de toute manière, en sorte qu'à cause d'eux, le nom de Dieu était blasphémé parmi les nations. Romains 2, versets 17 à 24.
Or si toi, tu portes le nom de Juif et que tu te reposes entièrement sur la loi, et que tu te glorifies en Dieu, et que tu connaisses la volonté, et que tu saches discerner les choses excellentes, étant instruit par la loi, et que tu crois que tu es conducteur d'aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, instructeur des hommes dépourvus d'intelligence, maître de petits enfants, ayant la formule de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc, qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas dérober, dérobes-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre adultère, commets-tu adultère? Toi qui as en abomination les idoles, commets-tu des sacrilèges? Toi qui te glorifies en la loi, déshonores-tu Dieu par la transgression de la loi? Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations, comme il est écrit.
Avec cela, il persécutait les serviteurs de Christ. Aussi l'apôtre prononce-t-il contre eux cette parole solennelle. Ils ne plaisent pas à Dieu et sont opposés à tous les hommes. 1 Thessaloniciens 2, verset 15. Et ils estimaient être religieux. Rien n'est plus odieux à Dieu qu'une profession de religion, s'il n'y a pas la réalité dans le cœur et dans la conduite. Quand la foule des païens qui entouraient le tribunal et attendaient la sentence eut vu le mépris avec lequel Gallion avait chassé les Juifs, ils donnèrent cours à leur haine contre eux, saisirent Sosthène, le nouveau chef de la synagogue, celui qui, sans doute, avait porté la parole pour accuser Paul, et se mirent à l'accabler de coups. Et que fit Gallion sous les yeux duquel cela se passait? Rien. Que lui importait qu'un misérable juif fût battu? Il avait tort, car il devait la justice à tous. Mais Dieu, qui s'était servi de l'indifférence religieuse de Gallion pour délivrer Paul, permettait que, par son manque d'équité, la méchanceté des Juifs retomba sur leur tête. Paul put donc continuer encore assez longtemps l'œuvre bénie de l'Évangile, l'annonçant aux pécheurs, instruisant et encourageant les saints. Puis, il prit congé des frères et se rendit avec ses amis Aquilas et Priscilla à Éphèse, où nous le retrouverons. Paul revint plus tard à Corinthe, mais nous n'avons aucun détail sur cette visite. Depuis Éphèse, il écrivit deux lettres à l'assemblée de Corinthe. Elles sont parmi les plus longues que nous ayons de lui et traitent de sujets très importants. Elles complètent ce que la parole de Dieu nous dit des Corinthiens, Aussi en dirons-nous quelques mots. L'apôtre avait été informé par des frères venus de Corinthe que beaucoup de mal s'était introduit dans l'assemblée. Au lieu d'être tous bien unis, il y avait parmi eux des partis. L'un se vantait d'être de Pierre ou Céphas, l'autre de Paul, un troisième d'Apollos. Faute de vigilance, un de ceux qui faisaient partie de l'assemblée était tombé et vivait dans une immoralité révoltante, et on le tolérait. Sous prétexte de liberté, on s'associait aux fêtes païennes. Quelques-uns mettaient en doute l'apostolat de Paul. Le désordre s'était introduit dans les réunions de l'assemblée. Les femmes prétendaient y parler, la scène était profanée. Les dons de langue et la connaissance étaient un sujet de vanterie. Il n'y avait plus d'édification, car chacun se hâtait de parler, même plusieurs à la fois. Et, de plus, de subtiles erreurs relatives à la résurrection avaient cours dans l'assemblée. Quel triste tableau pour une assemblée de Dieu! Que fera Paul? Son cœur était profondément affligé. Mais se confiant en Dieu qui avait appelé les Corinthiens à la communion de son Fils Jésus-Christ et qui est fidèle, il leur écrivit pour réveiller leur conscience et les ramener dans le droit chemin et à une conduite propre à glorifier le Seigneur. Et c'est ainsi que, pour tous les temps, la sagesse et la bonté de Dieu ont pourvu, dans ses épîtres, à ce qu'il faut à l'Église pour la diriger dans sa marche. Car, nous dit-il, ce qu'il écrit est aussi pour tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 2. Parcourons donc quelques-uns des enseignements que Paul donne aux Corinthiens et qui s'adressent aussi à nous. Il nous apprend d'abord ce qu'était l'assemblée des chrétiens dans un endroit. C'était l'assemblée de Dieu, tout autant que l'assemblée universelle composée de tous les croyants. C'était le temple de Dieu, car le Saint-Esprit y habitait. Quelle sainteté ne fallait-il donc pas qu'il y eût dans une telle assemblée? Aussi le méchant, l'homme qui se disait frère et vivait dans le péché, devait en être exclu. L'assemblée était le corps de Christ, lui-même étant la tête. Les croyants en étaient les membres et étaient unis à Christ par le Saint-Esprit. Chaque membre a donc sa fonction, son utilité, et tous ont à concourir au bien des autres sans rivalité, sans jalousie. La scène du Seigneur, mémorial de sa mort jusqu'à son retour, se célèbre dans l'assemblée. C'est la communion de son sang, la portion de ceux qui sont rachetés par son sang précieux. C'est la communion de son corps livré pour nous. Le seul pain partagé entre tous rappelle que ceux qui y participent sont membres du seul corps de Christ. Aux vrais croyants, et à eux seuls, appartient donc le privilège de rompre le pain, de prendre la scène. Les dons de grâce, tels que l'enseignement, la prophétie, les langues, etc., s'exerçaient dans l'assemblée, non par le moyen d'un ministère établi par les hommes ou par l'Église, mais l'Esprit opérait, distribuant comme il lui plaisait, donnant à l'un la parole de sagesse, à l'autre la parole de connaissance, mais tout devait se faire en vue de l'utilité, pour l'édification et avec ordre, et au-dessus de tout devait régner l'amour. La marche individuelle est aussi le sujet des exhortations de l'apôtre. Il faut se séparer du mal et vivre dans la pureté, car le chrétien est membre de Christ et son corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons donc à glorifier Dieu dans notre corps. Le chrétien doit éviter les procès et souffrir plutôt qu'on lui fasse tort. Il faut fuir l'idolâtrie, ne pas participer aux festins et aux fêtes des idolâtres, car c'est participer à la table des démons. Nous n'avons plus d'idolâtres autour de nous, comme il y en avait alors, mais un chrétien peut-il s'associer au monde, à ses fêtes et à ses plaisirs? Non, car il ne doit toucher à rien d'impur ni de souillé. En tout, le chrétien doit s'efforcer de n'être en scandale ni à l'assemblée, ni au monde. Il doit être imitateur de Christ. Enfin, quant à l'erreur de quelques-uns des Corinthiens qui prétendaient qu'il n'y avait pas de résurrection, l'apôtre établit d'abord le fait indubitable que Christ est ressuscité, ajoutant que, sans cela, nous serions encore dans nos péchés. Puis il montre que si Christ est ressuscité, il s'ensuit que les saints ressusciteront aussi. En Adam, tous meurent. En Christ, tous seront rendus vivants. Nous avons porté l'image du terrestre, d'Adam, avec des corps corruptibles qui sont poussière. Nous porterons l'image du céleste, Christ, avec des corps incorruptibles. La chair et le sang, c'est-à-dire nos corps corruptibles tels qu'ils sont maintenant, ne peuvent aller dans le ciel, hériter du royaume de Dieu. Mais l'apôtre nous révèle un grand mystère caché jusqu'alors. Nous ne nous endormirons ou mourrons pas tous, dit-il, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Voilà les précieux enseignements que Paul donna aux Corinthiens, et Dieu a voulu qu'ils nous fussent conservés, parce qu'ils s'appliquent aussi à nous. Ils nous conduisent jusqu'au glorieux avenir qui attend les chrétiens, car il n'est question ici que des croyants. Quand ces choses auront-elles lieu? Bientôt, quand le Seigneur viendra et appellera ses bien-aimés. Alors, étant tous changés, rendus propres pour le ciel, il les y introduira.